Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. La technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne.
Tout le monde, vas-y. Oui, je t'écoute. Tout le monde a entendu parler de l'opéra chinois. Mais sait-on vraiment ce que c'est et ce qu'il représente surtout? Alors je vais vous donner quelques rudiments aujourd'hui, oui, chers auditrices et auditeurs, pour le comprendre et peut-être l'apprécier quand même.
Oui.
Et puis bah, toi Didier, tu vas nous raconter l'histoire oubliée des travailleurs chinois venus en France pendant la Grande Guerre.
On va passer dans un autre univers, ça c'est clair.
Oui.
D'accord. Alors bon, avant de parler de la France et de la Grande Guerre, nous allons d'abord évoquer les origines de l'opéra chinois. Alors déjà, Corinne, depuis quand existe-t-il, s'il te plaît?
Oui.
Cet opéra chinois.
Cet opéra chinois est l'une des formes les plus riches du théâtre musical au monde.
Je
tiens à le... à le préciser, et il est l'héritier de traditions plurimillénaires.
Ok.
Bon, le décor est planté.
Je suis pas très très surpris.
Voilà. Il combine chant, déclamation, danse, mime, arts martiaux, costumes élaborés et maquillage symbolique.
Ouais.
Et chaque région de Chine a son style. Mais l'opéra de Pékin demeure la forme la plus connue à l'international.
Oui,
c'est la, celle qui est la plus exportée, on va dire.
Je suis pas surpris, c'est ça. D'accord.
Alors, les origines de l'opéra chinois remontent à l'Antiquité, lorsque les rituels chamaniques, les chants populaires et les danses avec des masques accompagnaient les cérémonies religieuses.
Ok.
Et la première académie artistique d'opéra chinois a été fondée au 7e siècle, sous la dynastie Tang.
Okay.
Donc c'est quand même très ancien.
Oui, c'est pas tout neuf.
Et elle est donc... une académie, c'est important. Hein, je veux dire, ça veut dire créer des standards qui sont répétés de génération en génération. Mmh. Et cette académie artistique s'appelait, c'est très joli, je trouve, le Jardin des Poiriers.
Ah, tiens.
Et elle était destinée à former des musiciens et des acteurs. Mmh. Et puis plus tard, à partir de la dynastie Song, donc au Xe siècle, les formes populaires se sont développées, notamment dans les grandes villes marchandes.
Mmh.
Oui, il y avait des mécènes, probablement.
J'imagine.
Alors, sous les Ming, donc 14e siècle jusqu'au 17e siècle, et les Qing, du 17e au 20e, l'opéra chinois va atteindre un raffinement remarquable.
Ah.
Et c'est durant la période Qing, donc la dernière dynastie, que va naître l'opéra de Pékin. Avant, c'était l'opéra chinois.
Oui.
Et c'était donc à la fin du 18e siècle. Donc l'opéra de Pékin est plutôt récent.
Ok, voilà. Du coup, encore une fois, je ne suis pas du tout un spécialiste. Selon les régions, il y a donc plusieurs opéras chinois. Ok, ça, je comprends bien. Pour nos auditeurs, j'ai pensé,
mais oui, ça m'arrive. Ça, c'est bien.
C'est bien.
C'est cool.
À donner des exemples, en fait, pour qu'on comprenne et puis qu'on entende surtout les différences entre ces différents opéras. Donc alors, on y commence, Corinne ?
Oui, on y va.
Alors, pour le 1. Alors, c'est parti. Premier extrait. Oui.
Oui, alors, je ne vais pas dire que j'ai deviné parce que...
Ah non, tu as un petit peu préparé quand même.
J'ai un peu préparé. Oui, ça c'est l'opéra de Pékin, qui est né donc à Pékin et qui se distingue par son chant particulièrement aigu, je dirais, les mouvements codifiés et des maquillages très élaborés.
Okay,
allez, le numéro 2 maintenant, l'extrait 2, Didier.
C'est parti.
Alors ça, c'est l'opéra Yue, c'est quand même très différent, je trouve.
Oui.
Et je trouve ça beaucoup plus mélodieux.
Je trouve aussi.
Donc l'opéra Yue, c'est originaire d'une autre région de Chine, c'est le Zhejiang.
D'accord.
Et il est réputé pour ses mélodies, justement, et la prédominance d'interprètes féminines.
D'accord.
Donc des très jolies voix douces.
Ok.
L'extrait numéro 3, Didier ?
Alors, allons-y, le 3.
Moi, celui-là, je l'adore.
Ah.
C'est l'opéra cantonais.
D'accord.
Alors, il est pratiqué dans la région de ce qui s'appelle le Guangdong, donc la région de Canton, et aussi à Hong Kong. Et il se caractérise par son répertoire héroïque. On l'entend un petit peu dans la musique quand même. C'est un petit peu pompier. Le quatrième, Didier.
Oui, alors le quatrième, c'est parti.
Alors, cet opéra-là, c'est le Kung Chu.
D'accord.
Et c'est la forme la plus ancienne qui est encore jouée et qui est connue pour son élégance littéraire et musicale. Et c'est le Kung Chu qui est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
Ah, d'accord.
Voilà, donc c'est l'opéra de Pékin, c'est le plus connu. Mais le Kung Chu, c'est celui qui est le plus préservé, le plus authentique, on va dire, et le plus ancien.
Bon, bah moi, je vais garder... comment on dit
le Kung-Chu?
Non, le Yu-Ju.
Le cantonais?
Le Yu-Ju,
le deuxième. C'est le deuxième que tu préfères.
Ah oui, moi, j'ai préféré celui-là.
Voilà. Alors, chaque région a adapté les dialectes, les styles musicaux, et puis les instruments à ses traditions locales. Mais malgré ces différences, toutes partagent des principes esthétiques communs.
D'accord, bien sûr. Alors, justement, Corinne, quelles sont les particularités de l'opéra chinois?
Oui, il y en a quand même beaucoup.
Alors, j'imagine.
Contrairement à l'opéra occidental, l'opéra chinois ne cherche pas le réalisme. Il repose sur la suggestion symbolique.
D'accord.
Alors, par exemple, un simple mouvement circulaire de l'acteur peut représenter un long voyage. Donc ça, il faut quand même connaître les codes.
C'est clair.
Et un fouet, ça peut évoquer un cheval invisible.
D'accord.
Donc voilà, c'est vrai, il faut avoir quand même une connaissance de tous ces codes.
Chose que je n'ai pas. D'accord.
Voilà, c'est pour ça que l'astrologie existe.
On est là, bien sûr.
Alors la scène est très dépouillée. Quelques chaises et tables, ça suffit à représenter un palais ou un tribunal. Voilà, pas beaucoup de décors. Le spectateur, en fait, il est invité à imaginer.
D'accord,
décor.
D'accord.
Alors, le jeu des acteurs est très différent de celui des acteurs occidentaux, ça on le sait quand même un petit peu, parce qu'il repose sur 6 compétences fondamentales, je l'ai déjà dit, le chant, la déclamation, la gestuelle, la danse, les acrobaties et les combats. Donc, on ne demande pas autant, demande pas autant à nos chanteurs d'opéra ou à nos comédiens.
C'est vrai.
Alors, on imagine facilement qu'il exige une formation rigoureuse dès l'enfance et un entraînement quotidien intensif. Alors, l'opéra chinois a en plus une dimension philosophique qui reflète les principes du confucianisme, du taoïsme et du bouddhisme, où le passé et le présent coexistent sur scène.
D'accord, très bien. Bon. Corinne, je l'imagine aussi qu'il y a des types de rôles joués par des acteurs, je suppose, comme ça tout est très codifié, non?
Oui, il y a des rôles types que l'on retrouve dans chaque œuvre. Alors, il y a les Cheng, les rôles masculins.
D'accord.
C'est les jeunes lettrés, les guerriers, les vieillards. Il y a les Dan, ce sont les rôles féminins de jeunes femmes, d'héroïnes guerrières, de femmes âgées. Et historiquement, ces rôles étaient joués par des hommes. C'est un peu comme le kabuki.
C'est la question que je me posais. D'accord.
Et puis, il y a aussi comme personnages les Jing. C'est des personnages au visage peint qui sont souvent des personnages puissants ou autoritaires. Il y a les Chu, qui jouent les rôles comiques, qui sont reconnaissables à la tache blanche sur le nez, un petit peu comme le nez rouge chez nous.
Ah oui, c'est vrai, oui, t'as raison.
Et chaque catégorie possède ses propres techniques vocales et gestuelles. Et le public connaisseur reconnaît immédiatement la nature des personnages à leur apparence.
Oui, je suppose, Est-ce que tu peux justement parler de ces signes de reconnaissance de maquillage? Tu peux nous décrire un petit peu les maquillages et les costumes, quoi.
Oui, le maquillage, c'est un des éléments les plus spectaculaires. Les couleurs ont toutes, bien sûr, une signification. Le rouge... C'est la loyauté et le courage.
D'accord.
Le blanc, la traîtrise et la ruse. Le noir, l'intégrité. Le bleu représente la loyauté. Et c'est pas les mêmes codes que chez nous. Et la justice, le bleu. Et pour finir, le vert, c'est la pureté et la sagesse.
Bien.
Et les costumes sont depuis longtemps inspirés des vêtements impériaux. Surtout des dynasties Ming et Qing qui étaient particulièrement beaux, évidemment.
D'accord.
Alors, forcément, brodés de dragons, de phénix, de fleurs.
Comme on l'imagine.
Très beaux. Et puis, il y a les coiffes et puis les accessoires qui accentuent la hiérarchie sociale et la personnalité du rôle. Alors, dans les pièces de l'opéra de Pékin et dans celui du Sichuan, certains personnages portent des masques. Ce n'est pas le cas de tous les opéras.
D'accord.
Pour incarner des fantômes. des démons et toutes sortes de personnages surnaturels ou pour incarner des rôles comiques.
D'accord. Bon, moi, Corinne, là, allons au cœur du sujet aussi. Il y a du chant, mais il y a aussi de la musique.
Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique, Didier. Mm-hmm. Et elle est basée sur des mélodies traditionnelles. Mm-hmm. Et elle est jouée par un orchestre qui est divisé en deux sections. Il y a les instruments à cordes et avant. Et les percussions. Alors, dans les instruments emblématiques, bien, il y a l'erhu, je vais le prononcer à la française, un violon à deux cordes qui produit un son expressif et plaintif.
Oui,
il y a le djingu, un violon aigu, la flûte dzidzi, le luth qu'on connaît, le pipa, avec en plus un ensemble de gongs et de tambours.
Très bien.
Alors, les percussions jouent un rôle crucial pour souligner les combats, l'arrivée des personnages et les changements de scène.
D'accord.
Bon, pour vous représenter un petit peu tout ça, chers auditrices, auditeurs, on va écouter un petit peu d'opéra chinois.
C'est
une grande chanteuse d'opéra chinois, qui est contemporaine.
Ok, je te fais confiance, là, je n'y connais rien.
Impressionnant quand même.
Ah oui, c'est l'herbe. Hein.
Une très très une très très belle voix.
Oui, je suis pas connaisseur, je suis pas super fan.
C'est une performance vocale quand
j'entends
même.
J'entends bien la performance.
Voilà.
Donc, alors, du coup, revenons à l'opéra. Quels sont les thèmes et les histoires de l'opéra chinois? Et en fait, quelle est l'œuvre la plus célèbre, s'il y en a une à définir?
Oui, il y en a beaucoup. Alors, j'en ai effectivement choisi une.
Ouais.
Alors, d'une façon générale, les intrigues s'inspirent de l'histoire impériale, des romans classiques, des légendes populaires, un peu comme le kabuki. Hein.
Ouais.
Et plus sérieux, des récits confucéens qui mettent en avant la loyauté, la piété filiale, la justice et l'honneur.
Mmh.
Alors la pièce, une des pièces les plus connues et celle que j'ai choisie, c'est le rêve dans le pavillon rouge.
Ah.
Alors c'est écrit par Cao Chuechin au XVIIIe siècle. Et ça raconte l'ascension puis la chute de la puissante famille Jia, une grande famille aristocratique sous la dynastie Qing.
D'accord.
Alors, le rêve dans le pavillon rouge est considéré comme l'un des quatre grands romans classiques de la littérature chinoise quand même. Hein.
Okay.
Et l'histoire commence dans une dimension mythique. C'est une pierre magique laissée de côté lors de la création du monde, qui désire connaître l'expérience humaine. Donc déjà, la dimension mythique. Et cette pierre oubliée va se réincarner sous la forme de Jia Baoyu, l'héritier de la famille Jia, né avec un morceau de jade dans la bouche, symbole de son origine divine.
D'accord. Bon.
Voilà. Alors Baoyu va grandir au sein d'un univers féminin raffiné, entouré de ses cousines, et il va éprouver un amour pur et profond pour sa cousine Daiyu, une jeune femme fragile, malade et mélancolique. Mais Baoyu sera marié à une autre de ses cousines, plus conforme aux attentes confucéennes, c'est-à-dire propice à donner des enfants à son mari, à sa famille.
Bien sûr.
Voilà, donc la pauvre Daiyu qui était malade, elle n'était pas conforme aux attentes.
Voilà, c'est ça.
Alors parallèlement au drame amoureux, le roman décrit la vie quotidienne d'une grande maison aristocratique, les intrigues domestiques, les rivalités internes, la décadence progressive à cause d'une mauvaise gestion qui va conduire la famille Jia à la ruine. Voilà. Alors, Daiyu va aussi mourir de chagrin après avoir appris le mariage arrangé de Baoyu. Et lui, désabusé par la vanité de sa famille et la souffrance causée par la mort de Daiyu, va tout abandonner pour devenir moine taoïste. Voilà le rêve dans le pavillon rouge, Didier.
Ok, bon, tout un programme quand même. Hein.
Oui, c'est toujours tragique. Hein.
On parle d'un opéra qui n'est pas tout à fait récent, celui-là, mais aujourd'hui.
Oui.
Qu'est-ce qui est devenu l'opéra chinois, alors?
Alors, le XXe siècle a marqué une période de bouleversement avec la chute de l'Empire en 1911, la première révolution chinoise. L'opéra a dû alors s'adapter à un public plus moderne. Okay. Et pendant la révolution culturelle, entre 1966 et 1976, de nombreuses œuvres classiques seront interdites.
Ah oui.
Parce que le confucianisme était mis au rancard, quand même.
Hein. Bien sûr.
Alors, seuls quelques opéras modèles à thème révolutionnaire étaient autorisés et ça transformera radicalement le répertoire. Mmh. Alors, on avait déjà parlé du détachement féminin rouge, qui est un ballet, mais c'est aussi un opéra. Voilà, donc c'est un des plus célèbres.
Okay.
Après 1978, sous Deng Xiaoping et l'ouverture économique, les formes traditionnelles vont renaître progressivement et des académies nationales vont être créées pour le préserver le transmettre. Alors aujourd'hui, l'opéra chinois a plusieurs défis à relever avec la concurrence des médias et d'Internet, on s'en doute et surtout le désintérêt des jeunes générations. Et une autre raison, c'est le coût élevé des productions.
Ah oui, forcément.
Voilà, mais il bénéficie quand même d'un regain d'intérêt patrimonial et international, avec donc, comme je vous l'ai dit, l'inscription du Kung Chu. Kung Chu, j'insiste,
Kung Fu,
au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO.
Alors, et du coup, si nous, moi qui suis donc, vous l'avez compris, pas très très connaisseur de l'opéra, si j'ai envie de découvrir en France, c'est possible, il y a des représentations ?
Alors oui, mais c'est peu fréquent, il faut quand même bien le dire.
D'accord.
Alors actuellement, il y a des collaborations contemporaines qui mélangent opéra chinois et théâtre occidental.
D'accord.
Au cinéma aussi, on en voit un peu, ou danse moderne, et ça contribue à sa diffusion en Europe. Alors, il y a eu récemment en France plusieurs manifestations autour de l'opéra chinois, notamment le Pavillon aux Pivoines, une autre grande œuvre qui a été, c'est un opéra Kung Chu qui a été représenté à Bordeaux en octobre 2024 et puis la même année en novembre au théâtre du musée Guimet à Paris. Et cette année, on a vu pour le défilé du Nouvel An lunaire à Paris, il y a eu des artistes avec des costumes inspirés de l'opéra chinois. C'était la première fois.
Ah oui.
Et il y a eu aussi des représentations en 2025 au Festival d'Avignon, dont une adaptation de L'Avare en opéra Kung Chu à Avignon. Voilà.
Okay.
Alors ça, c'est sûr que c'était en lien avec l'anniversaire des 60 ans de relations diplomatiques avec la Chine. Mais quand même. Alors cet été, l'Opéra Royal de Versailles, pour ceux qui pourraient être intéressés, il y aura Les Chinoises, un spectacle qui est inspiré de l'opéra chinois. Voilà, ce sera tout l'été.
Puis au théâtre de Versailles.
L'Opéra Royal de Versailles.
Ça doit donner ça.
Voilà. Alors moi, je vous recommande, si vous voulez en savoir plus, et même si vous voulez voir un très beau film, c'est le film multiprimé de Chen Cage.
Je te vois bien.
Adieu ma concubine.
Oui, ça me parle plus.
Un film absolument magnifique.
Forcément.
Qui a été Palme d'Or du meilleur film étranger à Cannes en 1993.
D'accord.
Bon, en attendant, on va écouter une autre chanson. En attendant la suite.
Oui, bien sûr.
On va écouter Tian Lian Yan, chanson chinoise.
Et ça aussi,
traditionnelle.
C'est très joli.
Merci Didier pour cette jolie chanson qui me permet d'introduire la chronique, l'histoire des Chinois enterrés à Noyelles.
C'est ça.
Dans la baie de Somme.
Oui, tout à fait.
Les Chinois de la Grande Guerre.
Oui.
Raconte-nous leur histoire. Qu'est-ce qu'ils étaient venus faire en France ?
Alors, ils ont une histoire très peu connue, en fait, et je pense qu'ils méritent qu'on la raconte dans Asialogie.
Oui.
C'est lors de la Première Guerre mondiale que la France avait fait appel à des travailleurs chinois sous contrat pour remplacer les hommes partis au front. En 1916, ce front était stabilisé. La zone de la baie de Somme était occupée par des troupes belges, mais surtout par l'armée anglaise qui avait ses bases à Dunkerque, Calais, Boulogne et Saint-Valery-sur-Somme. Un port où entraient de gros navires. Après les bombardements, l'entretien des routes et des pistes accédant au front devait être assuré par l'armée britannique. Et faute de main-d'œuvre sur place, l'Angleterre avait passé un accord avec le gouvernement chinois pour lui fournir des travailleurs manuels. En tout, 37 000 Chinois seront recrutés par la France, un peu moins de 100 000 par le Royaume-Uni, dont 80 000 à Noyelles.
Oui, c'était un chien.
C'est phénoménal, 80 000. Oui. Les Anglais avaient choisi Noyelles, bien desservie par une voie ferrée, proche du port de Saint-Valery et assez éloignée du front pour accueillir ces Chinois. Cette base occupait près de 30 hectares.
Oui, c'était énorme.
Oui.
Alors, ils ont fait un très long voyage pour venir jusqu'à Noyelles quand même. Alors, ils sont arrivés quand ?
Oui, bien sûr, c'est un très long voyage. C'est tout au début de décembre 1916. Alors, entassés dans des wagons de marchandises qu'ils ont débarqué au Havre complètement épuisés après 3 mois de traversée dans des bateaux peu confortables, vous l'imaginez bien.
Oui.
Les historiens racontent qu'au terme de ce terrible voyage et aussitôt sur la terre ferme, ils sont arrivés en poussant des cris de joie qui ont terrorisé les enfants et les adultes. C'est ce qu'on raconte.
Bah oui, les habitants de Noyelles ne devaient pas avoir vu beaucoup de Chinois à cette époque-là.
C'est ça.
Alors, comment ils vivaient ces Chinois de Noyelles ?
Alors, à Noyelles, ils ne sont pas passés inaperçus, vous l'imaginez bien, comme tu l'as dit, tant ils paraissaient différents, habillés de coton matelassé, les jambes ficelées dans des bandelettes, avec leurs petits bonnets de rond, avec des caches-oreilles de fourrure, avec aussi leur mauvaise mine, parce que suite au voyage, et leur saleté, donc forcément,
oui,
tout ça, ça a choqué, quoi. Alors, quand comportait des baraquements, de logements, des cuisines, un hôpital, une prison et même un asile, car au contact du front qui subissait des bombardements, beaucoup d'entre eux perdaient parfois la raison.
On imagine.
Oui. Alors, la discipline y était très sévère et les peines corporelles très fréquentes aussi. Elles étaient étroitement encadrées par les soldats anglais et travaillaient à transporter du ravitaillement, des matériaux de toutes sortes pour agrandir le camp, entretenir les chemins, les routes et pour s'occuper des champs laissés en friche suite à la mobilisation des agriculteurs.
Oui, il n'y avait plus personne.
Alors, attention, ils travaillaient 10 heures par jour, 7 jours sur 7.
Oui, alors.
C'était des conditions déplorables, vous l'imaginez bien.
Alors, quelles étaient les relations qu'ils avaient avec les Anglais et avec les villageois ?
Alors, au début, il y avait peu de relations entre ces Chinois et ces habitants du pays. Puis, les officiers anglais ont choisi les Chinois parmi ceux qui considéraient, entre guillemets, plus évolués, comme ordonnance pour les servir.
D'accord.
Où ils les envoyaient au village pour du ravitaillement, pour entretenir leur chambre, pour soigner leur cheval. Et ainsi, peu à peu, des relations s'établirent, mais ce n'était pas facile. Alors, petite anecdote, les Chinois étaient extrêmement friands de pommes. Et comme ils étaient payés en monnaie française, ils en achetaient aux villageois qui en profitaient pour leur en vendre à des prix exorbitants. Mais rapidement, en fait, les Chinois se rendirent compte de la valeur exacte des fruits. Alors, ils ont appris à marchander et puis à connaître la valeur de l'argent et de l'or, ce qui les a conduits parfois à voler.
C'est moche.
Oui, mais bon.
Enfin, c'est pas moche de voler, mais qu'on les ait truandés.
Oui, je crois que ça arrive. C'est la nature humaine, parfois.
C'est la nature humaine. Alors, ils sont tous arrivés en 1916-1917. Alors, d'où est-ce qu'ils venaient et pourquoi ? Pourquoi, on s'en doute un peu, mais bon, explique-nous.
Mais on va en parler. Les premiers sont arrivés, donc, comme tu l'as dit, en 1916, et la grande majorité en 1917. Cette histoire est à la fois méconnue en France, mais aussi en Chine. Hein. Et les historiens ont très peu d'éléments pour, sur ces Chinois exilés. On sait que leur statut était différent côté anglais et côté français. Alors pour les Français, ils étaient davantage considérés comme des salariés avec des contrats de travail, comme s'ils étaient des travailleurs dans des usines.
Oui.
Alors pour les Anglais, par contre, ils étaient sous la responsabilité des militaires. Ils avaient un contrat de 5 ans. Pour la plupart, ils avaient quitté la Chine pour améliorer leurs conditions de vie, hein, aider leur famille,
sans doute.
Rester au pays, c'est souvent comme ça. Ils venaient principalement de Shandong, une province chinoise très pauvre, mais on a très très peu d'éléments vu le recrutement qui a été fait un peu dans le secret. Hein.
Alors, est-ce qu'il y en a qui ont réussi à retourner en Chine, Didier, et comment sont morts ceux qui sont au cimetière de Noyelle ?
Eh oui, on y vient. Parmi eux, il y en a qui sont morts d'épuisement, hein, tués près du front aussi de bombardement ou à cause de la fameuse épidémie de grippe espagnole qui, à cette époque, qui avait fait des ravages. Et c'est après la guerre que les Anglais ont regroupé tous les corps et créé ce cimetière de Noyelle, toujours entretenu par la commission du Commonwealth pour les tombes de guerre.
Ah oui, à travers les années, comme
voilà.
Ça.
Voilà, il y en a qui ont pu rentrer alors, chez eux, et à partir des années 1920, entre 2000 et 3000 travailleurs sont malgré tout restés en France après la guerre, et leurs descendants sont devenus français et ont constitué la première vraie communauté chinoise en France.
Oui, ça on le savait pas.
Et ils sont à l'origine, en fait, de l'amitié franco-chinoise.
Comme quoi, ça on ne le savait pas,
c'est intéressant, oui.
Alors, on peut visiter le cimetière de Noyelle, Didier ?
Ah oui, oui. Tout d'abord, c'est le plus grand cimetière chinois d'Europe. Il a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en septembre 2023.
Ah oui, c'est récent.
Il est au milieu des champs et il compte 849 stèles calligraphiées. Alors, il est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un lieu qui est très visité, surtout par des Chinois, les jours des morts et par toutes sortes de nationalités.
Oui, donc c'est vraiment
un lieu de recueillement encore.
Un lieu de recueillement à visiter.
Voilà.
Bon, c'est fini, Didier Asialogie.
Oui.
Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook et nous réécouter samedi matin à 9h30, le mercredi à 13h, et aussi en podcast. J'ai rien oublié, Didier,
non,
je crois.
Non, rien. Puis voilà, on consomme Asialogie quand on veut.
Voilà, c'est sur radioalpa.com, je l'ai pas dit, sur toutes les plateformes.
Radio Player.
Et Radio Player.
Eh oui.
Et on se retrouve bien sûr jeudi prochain à 12h, toujours sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
On vous souhaite une bonne semaine.
Très bonne semaine, prenez soin de vous. お客様のご協力をお願いいたします。